Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours Anna
et Fanny, et aujourd'hui on vous propose un double épisode consacré aux deux films La Couleur Pourpre et Mean Girls. Double épisode donc à l'occasion d'une double sortie de films musicaux en janvier. Le film Mean Girls de Samantha Jane et Arturo Pérez Jr. est sorti le 9 janvier en France et le 12 janvier aux États-Unis. Et La Couleur Pourpre de Biz Bazavoulé est sorti le 24 janvier en France et le 25 décembre 2023 aux États-Unis. Donc c'est vraiment pas si souvent qu'on a deux films de comédie musicale qui sortent en salle pratiquement au même moment. Donc on voulait fêter ça avec cet épisode croisé. D'autant que en fait ces deux comédies musicales ont en commun une même généalogie, on va y revenir, mais il s'agit dans les deux cas d'une histoire qui a d'abord fait l'objet d'un livre, puis d'un film non musical, puis d'une comédie musicale sur scène, et enfin d'une adaptation en film musical. Donc c'était aussi un peu cette généalogie qu'on voulait retracer avec vous, et pourtant, hein, on va le voir, il s'agit de deux œuvres pour le moins dissemblables.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. voilà, si vous savez pas de quoi il s'agit, vous allez le découvrir. Désolé pour le léger retard hein, par rapport aux sorties françaises de ces deux films. D'autant que les films ne sont quasiment plus en salle. Faut dire qu'ils sont un petit peu passés inaperçus dans les salles françaises, alors qu'ils ont relativement bien marché au box-office américain.
Oui, et je tiens à préciser que pour l'un d'entre eux, je n'ai malheureusement même pas pu le voir en salle, puisque habitant donc dans une ville de province, le film a fait une apparition vraiment très très éclair et j'ai même pas eu le temps d'aller le voir en salle. Mais j'ai pu le voir d'une autre façon depuis sa mise en ligne sur les plateformes américaines. Mm-hmm. Tout ce que j'ai dit dans cette phrase est absolument exact.
Bien joué.
Je n'ai rien à rajouter. Donc on va d'abord vous parler du film La Couleur Pourpre, donc The Color Purple en anglais. Donc La Couleur Pourpre, c'est tout d'abord, hein, comme je disais à l'instant, c'est tout d'abord un livre.
Oui, c'est un roman épistolaire d'Alice Walker, qui est une romancière et activiste noire américaine née en 1944.
Ce livre, donc La Couleur Pourpre, est sorti d'abord assez discrètement en 1982, et a connu ensuite un gros boost de ses ventes lorsqu'il a été récompensé par plusieurs prix littéraires prestigieux.
Oui, puisqu'il a eu le prix Pulitzer de la fiction et le National Book Award en 83, et qu'il est resté pendant 2 semaines dans la liste, la célèbre liste des best-sellers du New York Times. Alors Fanny, raconte-nous un peu l'histoire en gros. Je préviens les auditeurs, auditrices qui voudraient pas en savoir trop, de peut-être avancer d'une minute dans cet épisode.
Oui, là, c'est vraiment méga spoiler, hein, je m'en excuse à l'avance. Donc, cette histoire, hein, c'est une véritable fresque qui se déroule sur près d'un demi-siècle, en grosso modo la première moitié du XXe siècle, dans le sud rural des États-Unis. Et on raconte donc l'histoire de deux sœurs afro-américaines, Sally et Nettie. Sally est abusée par son beau-père depuis l'enfance et de ses vices naîtront 2 enfants. Et les deux sœurs vont être séparées dès leur adolescence lorsque Sally va être forcée d'épouser un homme qui est clairement à la recherche d'une femme pour effectuer toutes ses corvées et s'occuper de ses enfants nés d'une précédente union. Et donc au fil des années, on va suivre la vie de Sally qui va endurer les pires maltraitances de la part de son mari et pas seulement d'ailleurs, et qui va malgré tout sans relâche espérer avoir un signe de sa sœur qui, comme elle lui avait promis en fait, ne va cesser de lui écrire tout au long de sa vie, mais dont les lettres vont jusqu'à un certain moment être interceptées par son mari. C'est donc un grand mélo, hein, vous aurez compris que c'est un récit éprouvant, on va y revenir, mais c'est aussi une histoire de sororité, parce que le film raconte également comment Sally trouve du réconfort et aussi des pistes pour s'émanciper auprès de plusieurs autres femmes noires de son entourage, notamment Shug Avery, la maîtresse de son mari, et aussi Sophia, la femme de son beau-fils. Le film finit, il faut le préciser, sur une note d'espoir, hein, puisque les deux sœurs vont finalement être réunies et Sally va retrouver ses enfants.
Alors, donc le film de 1985, c'est celui-là dont on va parler maintenant, donc la première adaptation de ce livre d'Alice Walker, adaptée par Steven Spielberg.
Oui, apparemment il avait été bouleversé par le livre et tenait vraiment à porter à l'écran ce récit.
Alors Alice Walker, elle a hésité à donner son autorisation pour le film, on peut la comprendre, peur que son histoire soit dévoyée, soit édulcorée. Et donc, elle avait un contrat qui stipulait qu'elle serait, donc elle devait être investie dans le projet, notamment en tant que consultante sur le scénario, mais aussi après sur le tournage. Et aussi, son contrat stipulait que 50% de l'équipe du film devait être soit afro-américain, soit être des femmes, soit issues de pays du tiers-monde, entre guillemets. Je trouve assez cool, de sa part d'avoir mis ça dans son contrat, voilà, pour œuvrer pour l'emploi des personnes minorisées dans l'industrie du cinéma. Dans ce film, on a dans le rôle principal de Sally, Whoopi Goldberg. C'était son premier grand rôle au cinéma, très loin de l'image qu'on a d'elle, plutôt une actrice comique.
Mais oui, c'est fou, hein. Moi aussi, j'ai vraiment été impressionnée par sa performance dans le film. D'ailleurs, cette performance lui valut une nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice et elle remporta le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique pour ce film. Au casting de cette adaptation de 85, on a également Danny Glover dans le rôle de Mister, donc le mari absolument horrible de Sally, et Oprah Winfrey, que j'avais pas reconnue au début, en Sophia, donc cette jeune femme de caractère qui épouse le fils de Mister. Le film va être nommé pour 11 Oscars, mais ne recevra aucune récompense.
Et comme on bosse très bien, et ben on a toutes les deux découvert le film pour préparer l'épisode.
Je l'ai vu d'ailleurs in extremis, hein, juste avant l'enregistrement pour ne rien vous cacher, parce que j'en avais beaucoup entendu parler, mais en fait je l'avais jamais vu en entier.
Pareil, alors ce film, c'est, comme vous l'avez entendu hein, dans le résumé que Fanny a fait, c'est un mélodrame total qui ne recule pas devant le pathos des situations et des personnages.
Alors moi personnellement, je sais pas si c'est parce que du coup cette version de 85, je l'ai vue sur mon ordinateur et pas en salle, mais j'ai été plus saisie, enfin je sais pas comment dire, chamboulée par la version comédie musicale. Le film finalement dramatique m'a semblé moins éprouvant que la comédie musicale, mais on reviendra tout à l'heure sur cet aspect.
Alors oui, clairement, il est moins éprouvant. Moi, pour le coup, je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif. La comédie musicale m'a vraiment trop, je sais pas, j'avais une sensation de too much, mais on en parlera après. Alors que malgré ce côté, ce pathos dont je parlais, le Spielberg a une certaine retenue, on va dire. À noter qu'il y a un aspect musical en fait qui est déjà présent grâce au personnage de Shug Avery, donc l'ex-femme du mari de Sally, qui est chanteuse. Et on a notamment une chanson marquante, Miss Sally's Blues, qui est chanté par Shug, donc dans le bar, en fait, il y a le beau-fils de Sally, qui ouvre un moment un bar, et donc qui invite Shug Avery à venir chanter. Et donc cette chanson est dans l'intrigue, écrite par Shug pour Sally, et qui nous donne à voir le rapprochement entre les deux femmes, parce qu'on va y venir un peu plus loin. Il y a une relation lesbienne qui va se tisser de manière plus ou moins explicite entre les deux femmes. La musique, je trouve, à la fois dans les quelques chansons qui sont écrites pour le film et à la fois aussi dans la musique orchestrale du film, est très belle. Elle a été écrite par Quincy Jones, donc célèbre producteur et compositeur de musique, et notamment célèbre pour avoir produit les albums de Michael Jackson. Et je trouve qu'ils se font bien dans le style Spielberg, à tel point que, à certains moments, musicalement, je trouvais que ça ressemblait à du John Williams, que ça ressemblait un peu à la musique
Mais
d'E.T.,
moi
par
aussi,
exemple.
clairement, il y a des moments où je me suis dit, enfin, il y a le ta-na-na, enfin, je sais pas,
Ouais.
ou Jurassic Park, ouais, je sais pas, j'étais en mode, mais. Et après, je me dis, bah non, à chaque fois, c'est Quincy Jones, mais j'ai buggé à plusieurs reprises. Ça serait me rassurer que tu aies trouvé ça aussi.
Oui, c'est étonnant à quel point ils se font dans ce style-là, avec cette musique symphonique, qui n'est pas du tout le style plus soul, funk, etc., qu'on lui connaît. Et l'autre aspect notable, j'ai trouvé, c'est l'utilisation de la voix off. Donc, c'est une voix off où Sally raconte son histoire en s'adressant à Dieu. Je pense qu'a priori, c'est tiré du texte du livre d'Alice Walker. Et j'ai trouvé que ça nous permettait d'entrer en empathie avec Sally à certains moments. Parce que sinon, parfois, on était un peu dans le spectacle extérieur de son malheur. Donc, je trouvais que ça. Je suis pas toujours fan des voix off, mais là, que c'était plutôt bien utilisé. Et en quelque sorte, on va dire que dans la comédie musicale, cet aspect-là est moins nécessaire puisque c'est remplacé par le fait que Sally va chanter des chansons pour exprimer son intériorité.
Et donc ce film de 85, en fait son impact, si on peut dire, il a été bien supérieur à celui du livre, puisque la sortie du film en décembre 85 fait l'effet d'une bombe hein, dans le paysage culturel américain, en particulier pour sa représentation des personnages noirs. Le film va être jugé par la critique de gauche comme utilisant des stéréotypes racistes dignes de l'âge d'or hollywoodien, notamment le portrait des hommes noirs comme étant violents, sauvages, etc. Hein, c'est sûr que le portrait n'est absolument pas positif de ces personnages masculins. Mais aussi, on a remis en cause la légitimité de Spielberg en tant qu'homme blanc, juif et appartenant au CSP+. Sa légitimité à raconter cette histoire qui est avant tout l'histoire de femmes noires.
Oui, et Spielberg en a eu conscience, hein. J'ai lu une interview assez intéressante de lui, donc qui date de 2011, où il revient sur sa carrière, et où il dit « La plupart des critiques venaient de réalisateurs qui pensaient qu'on les avait négligés et que ça aurait dû être un réalisateur noir qui raconte cette histoire noire. » Une autre critique qu'il pointe, c'est le fait qu'il ait adouci le livre. Alors il dit « Je l'ai toujours assumé, j'ai fait le film que je voulais faire à partir du livre d'Alice Walker. Elle a été très encourageante durant la fabrication du film et j'avais l'impression qu'on faisait du bon boulot d'adaptation. Il y avait des choses dans la relation entre Shug et Sally qui étaient précisément détaillées dans le livre, et donc je pensais que ça empêcherait un classement PG-13. Donc les PG-13, c'est le classement aux États-Unis que, en gros, que reçoivent la plupart des films. Et au-delà de PG-13, les films sont plus difficiles à vendre, plus difficiles à placer dans les salles. Donc Spielberg, il fait partie de ces cinéastes qui essaient toujours d'avoir un classement comme ça, qui permet au plus large public d'aller voir ses films. Bref, il dit ensuite, et j'ai été timide, j'ai peut-être été le mauvais réalisateur pour rendre compte des passages sexuels entre Shug et Sally. J'ai pris quelque chose qui était très érotique et intentionnel et je l'ai réduit à un simple baiser. J'ai reçu beaucoup de critiques pour ça. Je trouve ça intéressant qu'ils prennent en compte, enfin qu'ils les prennent en compte, qu'ils donnent de la valeur aux critiques qu'il a reçues à l'époque, même si je trouve qu'il exagère légèrement en disant que c'est un simple baiser, parce que la scène quand même du baiser dans La couleur pourpre de Spielberg, je la trouve plutôt réussie, elle est assez longue en réalité, elle est très belle, et il y a plusieurs baisers, mais effectivement, bon, le côté lesbien du livre est complètement édulcoré.
Bah, il est comme ça, Steven, tu sais, il bat sa coulpe.
C'est un mec bien, c'est un mec bien.
Voilà. Alors moi, personnellement, je connaissais surtout le film parce que sa réception, donc justement sa réception contemporaine en 85, elle a fait l'objet d'une analyse assez connue de la chercheuse américaine Jacqueline Bobo. Et ce travail est souvent cité comme un des travaux emblématiques du tournant ethnographique des cultural studies dans les années 80. En fait, lors de la sortie du film, il y a une confrontation entre d'une part les féministes noires qui défendaient l'œuvre et bon, en réalité surtout le livre dont est tiré le film, mais aussi le film lui-même, et d'autre part les critiques noires, qui étaient plutôt masculins donc, qui dénonçaient les deux œuvres et critiquaient la représentation stéréotypée des hommes noirs dans le film. Et Jacqueline Bobo, bah justement, elle s'est interrogée sur cette différence de réception entre hommes et femmes noires, et précisément sur cette lecture positive de cette œuvre par les féministes noires. Et elle a enquêté auprès d'un échantillon de spectatrices noires, et suite à cette enquête, elle a vraiment découvert comment ces spectatrices ont trouvé dans le film quelque chose de progressiste, malgré tout, hein, malgré, on va dire, le tragique des histoires dépeintes, et quelque chose, en somme, dont elles pouvaient se servir. Pour que de telles lectures soient possibles, ce qui est intéressant, c'est que Jacqueline Bobo, elle pointe l'importance du contexte. Elle explique que depuis les années 60, beaucoup d'autrices noires n'avaient plus cherché à s'adresser à un auditoire blanc, comme le faisaient d'ailleurs plutôt leurs collègues masculins, mais elles avaient cherché à écrire pour leur propre communauté, donc pour raconter des histoires de femmes noires pour les femmes noires. Et Bobo explique que, en quelque sorte habituées progressivement à être représentées dans les livres, ces spectatrices noires ont pris conscience de l'importance de se voir représentées à l'écran. Et en quelque sorte, leur première réaction lorsqu'elles ont vu La couleur pourpre, ça a été de se dire, bah finalement, pour une fois, nous, on est représentés en tant que femmes noires, ces personnages féminins sont de véritables sujets du film, pas simplement des objets, on les interroge sur le sens à donner à leur propre vie, et ça, ça a été perçu comme très positif pour ces spectatrices. Au lieu d'y voir une marque supplémentaire de l'aliénation et de la mauvaise représentation des noirs à Hollywood, ces spectatrices y ont vu d'une part l'occasion pour une autrice noire, Alice Walker, de faire entendre sa voix à travers une production mainstream qui est portée par Spielberg, mais aussi l'occasion pour un grand nombre d'acteurs noirs de talent, Danny Glover, Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey, d'accéder à des rôles principaux, parce que elle explique notamment que dans un autre contexte, hein, notamment celui du cinéma hollywoodien classique, le personnage de Whoopi Goldberg aurait été une simple servante, voilà, une simple adjuvante au personnage principal, et non une héroïne dont on suit l'action tout au long d'un film. Et ce qui est intéressant donc, dans cette analyse, c'est que c'est aussi exemplaire de la façon dont, même au sein de productions dominantes et qui peuvent être jugées comme perpétrant des stéréotypes négatifs sur les Noirs, eh bien, les spectateurs et spectatrices concernés peuvent y trouver quelque chose qui les concerne et qu'ils trouvent en puissance. C'est aussi cette façon dont le public dit minorisé hein, va trouver dans les textes dominants de quoi le réécrire pour pouvoir correctement s'y identifier. Bref, je vous recommande hein, la lecture de ce texte ou des ouvrages, on va dire, de vulgarisation qui parlent de ce texte parce que c'est assez exemplaire et quand on voit le film, en réalité, j'ai mieux compris aussi le texte de Bobo une fois que j'ai vu le film en entier parce que c'est vraiment très éclairant.
C'est super intéressant, donc Fanny, tu me donneras la référence exacte et je la mettrai sur le site.
Carrément,
Comme
ouais.
d'habitude, vous le savez sans doute, mais on le répète, on met à chaque épisode sur notre site toutes les références bibliographiques, donc livres, articles, vidéos, etc., qu'on a utilisées. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre site. Alors, maintenant passons à la comédie musicale, La couleur pourpre, qui date de 2005, donc sur scène. C'est l'adaptation à la fois du livre d'Alice Walker et à la fois du film de Spielberg, qui a été produite notamment par Oprah Winfrey. Au livret, on trouve Marsha Norman, qui était déjà assez expérimentée, puisqu'elle avait eu le Tony Award du meilleur livret pour The Secret Garden en 91, et qui continue de travailler, puisqu'en 2014, par exemple, elle a écrit le livret de The Bridges of Madison County sur la musique de Jason Robert Brown. À la musique, on a trois auteurs, qui n'étaient pas spécialement, pour le coup, des auteurs de comédie musicale. Brenda Russell, une chanteuse de style R&B soul. Ali Willis, qui était notamment co-autrice de tubes comme les chansons de Earth, Wind and Fire, September et Boogie Wonderland, ou encore de la chanson du générique de Friends, I'll Be There For You. Et enfin Stephen Bray, un musicien et auteur de chansons, notamment collaborateur de Madonna. Donc la recette pour faire des chansons assez efficaces. La mise en scène était assurée par Gary Griffin, c'était sa première mise en scène pour Broadway. Au casting, on avait notamment dans le rôle de Sally La Chance, une actrice qui était aussi assez aguerrie à Broadway, hein, vue précédemment dans Ragtime et surtout dans Once on This Island, pour lequel elle avait été nommée au Tony pour le rôle principal de T-Moon. Brandon Victor Dixon jouait Harpo, qui est le fils de Mister, donc le beau-fils de Sally. C'était un de ses premiers rôles, on l'a vu ensuite par exemple dans Shuffle Along, dans Motown The Musical ou encore dans Hamilton. Il a remplacé Leslie Odom Jr. dans le rôle d'Aaron Burr. Et enfin, dans le rôle de Nettie, donc la sœur de Sally, on avait Renée Elise Goldsberry, que vous connaissez évidemment tous et toutes parce qu'elle a incarné une dizaine d'années plus tard Angelica dans Hamilton.
Cette production originale de Broadway, elle s'est jouée de 2005 à 2008. Elle a reçu pour cette première production donc des critiques assez mitigées, mais malgré tout 11 nominations aux Tony Awards et notamment une victoire pour La Chance en tant que meilleure actrice.
Alors, je suis allée voir dans un ouvrage dont on a déjà parlé dans ce podcast et qu'avec Fanny on aime beaucoup, l'ouvrage de Stacey Wolf, Changed for Good, qui consacre plusieurs pages à cette comédie musicale. Elle indique une chose intéressante, c'est que 50% du public des 910 performances de ce premier run de La couleur pourpre était afro-américain. Ce qui représente, selon elle, une multiplication par 3 du public noir de Broadway à cette période. Donc c'est très...
Ouais, c'est ouf.
C'est significatif et ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait pour les publics afro-américains de maintenant qu'on est représenté, ben on y va, on va voir ce que ça donne et on prend ce qui nous sert dans ces histoires-là. Donc c'est super intéressant, je trouve. Et Stacey Wolf fait aussi, donc dans son analyse de l'œuvre, l'éloge de la manière dont cette comédie musicale décrit l'émancipation de sa protagoniste. Elle analyse notamment la chanson I'm Here, qui est le 11 o'clock number, le solo final très impressionnant, vocalement parlant, de Sally, le morceau le plus célèbre du show qui a été repris par beaucoup de gens. Elle l'interprète comme une I want song, mais qui arrive tard, puisque comme vous le savez, les I want song sont les chansons qui arrivent habituellement en début du show, où le héros ou l'héroïne va exprimer quel est son désir dans l'existence. Et là, la raison pour laquelle cette I want song arrive tard, c'est parce que Sally a passé toute la pièce à chercher, et finalement à trouver sa voix, et à apprendre à s'exprimer. C'est une chanson dans laquelle Sally finit enfin par s'accepter. Les derniers mots, c'est I'm beautiful and I'm here. Donc ce I'm beautiful est important parce que toute sa vie, on lui a dit qu'elle était laide.
Un revival de cette comédie musicale s'est joué entre 2015 et 2017. Jennifer Hudson y a fait son Broadway debut, comme on dit, dans le rôle de Chuck. Danielle Brooks a joué le rôle de Sophia et Cynthia Erivo le rôle de Sally. Cette version-là, pour le coup, ce revival a été très bien reçu, et en particulier la performance de Cynthia Erivo. La comédie musicale a remporté 2 Tony Awards, dont celui du meilleur revival et de la meilleure actrice pour Erivo. Et donc, en 2023, cette comédie musicale fait l'objet d'une adaptation cinématographique qui est produite par Oprah Winfrey, Steven Spielberg et Quincy Jones.
Oui, alors ce film musical de 2023 est réalisé par Blitz Bazaoulé, un Ghanéen. À la base, c'est un musicien et rappeur sous le nom de Blitz the Ambassador. En 2018, il a réalisé son premier long métrage, The Burial of Kodjo. Puis en 2019, il a participé au projet vidéo musical Black is King de Beyoncé. Alors la promo du film vante A New Take on the Beloved Classic. Je crois que en français il y avait une réinterprétation audacieuse. Alors là c'est, on a déjà parlé beaucoup de ça, hein, mais ce marketing qui ne mentionne pas l'aspect musical, on commence un peu à connaître. Mais donc voilà, évidemment le marketing se base sur le fait que le livre, mais surtout le film de Spielberg de 85 est connu. Au casting, Fantasia Barrino joue Célie. Donc c'est une chanteuse R&B qui a gagné American Idol en 2004 et qui a joué le rôle de Célie à Broadway puis dans le National Tour en 2007. Elle est assez émouvante, avec un jeu qui tire vers le pathétique, mais assez maîtrisé je trouve, c'est son premier rôle au cinéma. On a également une personne assez connue, c'est Taraji P. Henson, donc une actrice de cinéma voilà, qu'on a souvent vue et qu'on connaît notamment pour la super série Empire sur l'univers du rap. Et donc elle joue la chanteuse, la star, hein, Shug Avery. Elle a l'air de s'amuser beaucoup, j'ai trouvé, dans ce rôle.
On a également Danielle Brooks, donc, qui avait joué Sophia dans le Revival de 2015, qui reprend ici son rôle. Alors Danielle Brooks, on la connaît aussi hein, pour son rôle de Tasty dans Orange is the New Black, et je trouve qu'elle est absolument incroyable hein, dans le film. Enfin, j'y reviendrai, hein, mais son apparition, enfin, je la trouve vraiment, vraiment super. Dans le rôle absolument terrible de Mister, on a Colman Domingo, un acteur prolifique de Broadway, de cinéma et de télévision, que je trouve là aussi très bien et peut-être encore plus détestable, horrible que
C'est
son homologue
vrai.
dans le film de 85. Et on a également Corey Hawkins de In the Heights, qu'on retrouve dans le rôle d'Harpo, le beau-fils de Sally, ce personnage hein, qui s'émancipe progressivement de l'emprise monstrueuse de son père.
Enfin, on peut mentionner Holly Bailey, je sais jamais comment on prononce son nom, j'en suis vraiment désolée, qui est une chanteuse assez connue et puis surtout qui est connue de nous par le fait qu'elle a interprété La Petite Sirène, donc dans le récent remake des studios Disney. Et donc elle interprète le rôle de la sœur de Céline, Nettie, dans la première partie du film où elles sont plus jeunes.
Alors, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'en suis ressortie vraiment tourneboulée. C'était vraiment du grand spectacle, sans doute parfois, sans doute souvent un peu trop. Pour moi, c'est du grand mélo. Enfin, ça me semble même plus fort à hein, l'ancrage générique mélo que même l'ancrage comédie musicale. C'est ce qui illustre le plus, je trouve, le côté roller coaster des émotions qu'on a dans le mélodrame. J'en suis ressortie. J'ai dit à l'ami qui m'accompagnait que j'avais l'impression d'être sortie d'une machine à laver. Bah, j'étais dans un tambour pendant 2 heures. Je m'en suis vraiment pris plein à la gueule, mais j'ai bien aimé. Mais je pense qu'il faut être aussi dans l'exacte disposition d'esprit pour recevoir ça quand tu vois ça au cinéma.
Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Comme toi, je me suis dit, c'est avant tout, avant même d'être une comédie musicale, c'est un énorme mélodrame. On a des sentiments exacerbés, une caractérisation outrancière des personnages, des péripéties pour certaines assez invraisemblables. On a le fait que voilà, c'est le destin d'une femme sur une quarantaine d'années. Et comme tu dis, il faut vraiment l'avoir en tête quand on va voir le film.
Ouais, faut accepter aussi les conventions de ce genre, en fait. C'est vraiment l'idée. Au début, en plus, en particulier, je trouve, au début du film, on est vraiment plongé dans l'ambiance parce qu'on s'en prend plein la gueule, hein. Je trouvais que sur peut-être les 30, 40 premières minutes, ça n'arrête pas de trucs plus horribles les uns que les autres. Et c'est pour ça que je trouve que l'arrivée du personnage de Sophia, donc Danielle Brooks, il est hyper salutaire. En plus, il y a son interprétation à elle. Je me dis même en comparaison d'ailleurs avec l'interprétation d'Oprah Winfrey que je
Oui.
viens de voir dans la version de 85. Elle a quelque chose de riant, de solaire. Alors c'est sans doute, c'est toujours la même chose. Hein. C'est aussi nourri de la persona qu'elle a dans Orange is the New Black. Hein, quand tu vois cette actrice, bah, il y a aussi ce côté-là, hein, cette espèce d'optimisme envers et contre tout. Et ça fait vraiment du bien qu'elle arrive parce que tu as l'impression de voir enfin une figure de femme qui se révolte. Et c'est aussi pour ça, alors là, méga spoiler, hein, que un peu plus tard dans le film, le spectacle de combien elle est heureusement temporairement entre guillemets si je puis dire matée par ce concours de circonstances qui fait qu'elle va aller en prison enfin bref la voir détruite c'est d'autant plus insoutenable en fait vu comment elle était au début enfin il y a quelque chose de moi ça m'a bouleversée quoi ça m'a pris aux tripes et d'ailleurs ce personnage donc garanti avec spoiler il y a la femme du maire de la ville à un moment qui fait jeter Sophia en prison sous un prétexte qu'elle s'est juste opposée à être embauchée en tant que gouvernante enfin genre juste bah non j'ai pas envie et puis bref ça part en vrille. Ce personnage, dans cette version de 2023, comme dans la version en fait de 85, il est tellement affreux et flippant, enfin j'arrive même pas à bien expliquer, mais c'est glaçant en fait ce personnage de femme là. Je sais pas si tu arriveras à mieux expliquer que moi, mais ça m'a aussi beaucoup beaucoup perturbée. J'ai rarement été autant fascinée dans le mauvais sens par un personnage dont l'apparition à l'écran était aussi brève.
Oui, bah, c'est absolument horrible. Effectivement, et encore plus, je trouve, en 2023, dans le Spielberg, elle est un peu moins flippante. Enfin, évidemment, elle est horrible, hein. Enfin, en gros, une femme noire lui manque vaguement, et encore, même pas vraiment, mais bon, en gros, lui dit d'aller se faire voir, et du coup, elle l'a fait envoyer en prison. Enfin, on est à un niveau d'horribilité stratosphérique. Mais dans le Spielberg, elle est un peu plus, je sais pas comment dire, plus ridicule et moins
Oui.
flippante. Dans le 2023, elle est. C'est. Ouais, ça fait très peur. Ouais, de manière générale, quand il y a des blancs dans le film, c'est la merde. Il n'y en a pas beaucoup, mais
Bon
c'est la
résumé.
merde. Ouais, c'est la merde aussi quand il n'y a pas de blancs, mais ça rajoute, ça rajoute. Et je trouve ça aussi, je sais pas comment dire, le fait que ça soit un film avec que des personnes noires ou quasiment, j'ai trouvé ça, je sais pas comment dire, impressionnant à voir parce que je me suis dit c'est tellement rare. On voit quand même toute la journée des films où il y a que des blancs. Mais extrêmement rarement des films où il y a que des noirs. J'avais jamais vu le film original. Alors évidemment, j'ai vu les films All Black Musicals des années 30-40. Mais je sais pourquoi ils existaient. Ils existaient parce que les noirs n'avaient pas le droit d'être beaucoup à l'écran avec les blancs. Donc là, c'est autre chose. Et là, je me suis dit, tiens, là, on raconte vraiment l'histoire de gens noirs. Enfin, je sais pas, ça m'a impressionné. Enfin, dans le sens évidemment positif du terme. Je trouvais ça super que ça existe en fait. Parce que c'est un film sur la condition noire, bien sûr, hein, mais bon, évidemment aussi et surtout sur le patriarcat, sur la domination masculine. C'est pour ça que j'imagine les critiques masculins, noirs, ont pu réagir de manière négative à ce film. C'est parce qu'au fond, c'est surtout sur la domination masculine et sur la marge de manœuvre que peuvent avoir ou pas les femmes au sein de ce monde dominé par les hommes. Ce qui est beau, c'est, on l'a déjà dit un petit peu, hein, mais c'est la représentation d'une sororité ultra puissante entre toutes les femmes de l'histoire. Parce qu'il y a parfois des rivalités entre elles, mais quand même, dans l'ensemble, on est surtout sur une solidarité. Et aussi, je trouve, la diversité des personnages féminins. Parce qu'elles ont toutes des caractères assez différents. Hein. Il y en a, bon, comme tu disais, le personnage de Sophia, qui est très très affirmé, qui a beaucoup de caractère. Célie, qui est beaucoup plus discrète. Elles ont toutes, voilà, des façons de parler, des manières de réagir à la situation qui sont différentes. Et cette diversité de représentation féminine fait beaucoup de bien, je trouve. Mais j'avoue qu'au final, l'histoire est un peu moins passionnante qu'elle pouvait l'être. J'ai passé un peu le film à me dire, ah, ça a l'air bien, mais pas vraiment à me dire c'est bien. Je sais pas comment dire. Parce que je me disais que j'avais très envie de voir le film et aussi de lire le livre d'Alice Walker, que je pense que je lirai un jour.
Oui, moi, la comédie musicale m'avait aussi avant tout donné envie de voir la version de Spielberg, donc c'est chose faite, et peut-être lirai-je également le livre. D'ailleurs, je crois que je l'ai, je crois qu'on me l'avait offert il y a
Ah!
quelques années, je te dirai.
Très bien. Alors maintenant parlons de l'aspect musical, hein, bien sûr, qui caractérise cette version 2023. La musique est dans l'ensemble assez chouette, une belle musique, donc inspiration des genres musicaux typiquement afro-américains, on va dire, donc le jazz, la soul, le gospel.
Il y a plusieurs numéros de cette comédie musicale qui nous ont marqués. On va un petit peu vous en parler.
Ouais, donc le premier numéro que je voulais mentionner, c'est le numéro des gens qui vont à l'église au début du film, qui s'appelle Mysterious Ways, qui est plutôt chouette dans un style complètement gospel pour le coup, hein, qui est logique puisque ça parle de religion et ça va présenter justement l'importance de la communauté et de la religion dans l'histoire, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de Dieu qui du coup moi m'ont un petit peu moins parlé. C'est vrai quand elle passe un peu certains moments à remercier Dieu, bon voilà, c'est peut-être la dimension qui m'a un peu moins intéressée, mais elle est bien introduite je trouve dans ce numéro-là.
Moi, j'avais notamment été marquée par la chanson She Be Mine, qui finit curieusement sur un numéro dansé dans l'eau, avec un peu même une vibe Step Up 2, que j'ai trouvé un peu étrange, vu le contexte, j'avoue.
Oui, alors c'est le numéro quand Célie découvre que sa fille bébé est en vie, puisqu'elle croise en fait la femme qui a adopté son bébé et son bébé, et donc elle est heureuse d'apprendre que sa fille est vivante. C'est un peu étrangement mis en scène quand même. Tout d'un coup, elle se projette, elle s'imagine dans les champs où des hommes et des femmes travaillent. Alors à la fois, c'est intéressant, hein, de voir ce travail de ces gens-là, mais j'ai trouvé ça un peu brouillon pour le coup.
Il y a aussi, parmi les numéros très marquants du film, le numéro Shug Avery is Coming to Town, où on a donc en fait toute la ville qui s'anime à l'arrivée prochaine de la chanteuse, donc qui va débarquer en ville. C'est un numéro que j'ai trouvé très chouette et en fait tellement typiquement, si je puis dire, jazzy, que je me suis dit, ah c'est sûr, ils ont rajouté une chanteuse pour la version comédie musicale. Mais en fait non, ce personnage de chanteuse était déjà présent dans le film et j'imagine aussi dans le livre.
Ouais, elle était aussi dans le livre. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce numéro. Je pense que c'est mon préféré. Il est hyper entraînant. On a vraiment des plans larges et sur toute la ville qui bougent de concert avec l'enthousiasme de ce qui va se passer, de cette femme qui va arriver. Il y a un côté très exaltant. Autre numéro qui m'a marqué, c'est le numéro entre Shug et Sally, What About Love, donc c'est un duo romantique, hein. Dans le film, ça commence au cinéma et elles vont se projeter dans l'écran. Et se voir en noir et blanc dans un décor qui fait, je trouve, penser donc au fameux film dont je parlais un petit peu tout à l'heure, de l'âge d'or hollywoodien. Ça, c'est quelque chose qui a été conçu pour le film, hein. Ce numéro se passait pas du tout au cinéma dans la version scénique. Et là, ce décor fait penser, je trouve, à l'escalier dans le film de 43, donc Stormy Weather, qui est un classique de la comédie musicale, qui est un film avec des interprètes uniquement noirs. Et à ce propos-là, je voulais vous renvoyer, là aussi je le mettrai sur notre site, vers un article du New York Times qui évoque justement l'influence sur ce film de ces comédies musicales All Black de l'âge classique.
Est-ce que c'est le numéro où elle se retrouve sur un vinyle, enfin avec un
Oui.
tourne-disque, tu sais. Oui, moi j'avais oublié de rementionner celui-là, mais ouais, moi aussi, il m'a vraiment marqué en mode ah oui là ça devient n'importe quoi. Enfin là pour le coup sur le grand spectacle, le truc qui
Oui.
part dans tous les sens. Je l'avais vraiment pas vu venir, hein, le disque géant.
Oui, complètement.
Un numéro qui m'a marqué, moi, c'est celui qui s'appelle Miss Sally's Pants. Le numéro, en fait, de la boutique de Sally. Le moment, en fait, où on a un montage elliptique dans lequel bah, Sally monte sa propre boutique de confection. Et bah, toutes les femmes qui l'entourent se mettent à chanter et danser. C'est très réjouissant, très coloré. Donc c'est chouette, même si j'ai été un petit peu perturbée par ce que j'ai perçu comme un léger anachronisme, notamment dans la matière et dans les coupes des vêtements qui étaient montrés, parce que t'avais pas mal de genre de trucs vraiment à paillettes, très fluides, qui faisaient un petit peu disco. Et là j'étais en mode, mais là on a basculé dans les années 60 et 70 ou quoi? Enfin je sais pas, ça m'a un peu perturbée. J'ai trouvé ça très beau visuellement, mais un peu incongru en fait.
Oui, c'est vrai, j'avoue, je me suis pas posé la question. Moi, j'ai trouvé aussi ce numéro très dynamique et très chouette. La chorégraphie est bien, les couleurs. On sent le bonheur revenu pour la protagoniste aussi, hein, ce moment où elle devient indépendante. Et du coup, je me suis pas posé la question de la coupe des pantalons, j'avoue. Et enfin, à mentionner I'm Here, donc la chanson dont je parlais tout à l'heure, le solo final de Sally, qui est filmé pour le coup assez simplement, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les numéros du film. Donc elle est seule dans sa boutique, voilà, il y a des plans assez longs, et à la fin, on a peut-être un petit regret, le cliché visuel du travelling arrière qui s'envole sur la dernière note ultra puissante de la chanteuse, bon voilà. De manière générale, je suis peut-être un petit peu moins enthousiaste que toi. Je trouve que la réalisation en fait un peu trop dans les numéros musicaux, on l'a déjà un peu dit, mais même dans les scènes parlées, entre guillemets, les effets de lumière, les ralentis, le montage parfois un peu frénétique. Donc les réalisateurs tentent beaucoup de choses, mais tout n'est pas réussi. J'ai trouvé que c'était souvent un peu brouillon.
Oui, je pense que tu as raison, hein, sur tous ces effets-là. Moi, je pense que j'ai été aussi beaucoup emportée, en fait, par le tourbillon des émotions qui m'a fait excuser beaucoup de choses. J'ai été un petit peu perdue sur la chronologie des événements. Alors même, d'ailleurs, qu'on avait des repères temporels assez clairs, hein, parce que comme dans le film de 85, on a voilà les dates qui nous sont montrées à intervalles réguliers. Mais en fait, tout simplement, je pensais pas que ça se passait à cette époque-là. Donc, j'étais perturbée depuis le début.
Ben ouais, pareil, en fait, j'étais persuadée de tout temps que c'était un film sur l'esclavage, enfin sur la période de l'esclavage. Donc pas du tout, mais c'est super intéressant de parler justement de la situation des populations noires pauvres dans une période justement ultérieure après la guerre de sécession et comment elles ont quand même été maintenues dans des positions sociales complètement subalternes et dans une misère assez impressionnante.
Oui, je pense que c'est juste qu'on est conditionné. Hein. On nous
Oui.
dit, on parle de noir à Hollywood, ah bah c'est forcément la période de l'esclavage. Hein. C'est malheureux, mais je pense que c'est juste ça.
Oui, complètement. Et je pense qu'il a fallu une autrice noire en la personne d'Alice Walker pour aller chercher quelque chose d'autre, d'un peu
Ouais,
plus
ouais.
intéressant et d'un peu moins vu, c'est évident. Pour finir sur cette Color Purple de 2023, petit point sur la relation lesbienne, donc qui est, on va dire, un peu plus mise en avant que chez Spielberg. La fascination de Sally pour Shug est clairement montrée, je trouve, comme une attirance sexuelle. Il y a notamment une scène où Shug prend son bain et où on est clairement du point de vue de Sally en train de la regarder, quoi. Il est aussi assez clair qu'elles couchent ensemble, même si on voit pas le sexe, hein. En fait, je pense que si on devait adapter le livre d'Alice Walker, le film serait classé érotique, donc on partirait dans une autre dimension. Là, on reste sur du grand public, mais Alice Walker a loué cet aspect du film, même si des critiques ont à nouveau trouvé que c'était faiblard, avec notamment des chansons qui ont été coupées alors que dans la comédie musicale, elles développaient leur relation. Mais à l'inverse, on retrouve dans cette version 2023 la chanson du film de Spielberg, Miss Sealy's Blues.
Alors moi, tu sais que j'avais pas compris. Oupsie. En revoyant le film de 85, ça m'est paru plus explicite dans la version de Spielberg, mais c'est sans doute que j'avais pas fait suffisamment attention en salle. Hein.
Non mais Fanny, à la fin de la scène dont on parlait au cinéma là, elles s'embrassent et après elles se réveillent dans le même lit. Donc je veux dire, dans un film grand public, ils peuvent pas faire beaucoup plus explicite.
Bah, tu vois, moi je n'avais déjà pas compris que les deux personnages féminins là, enfin je sais plus comment ils s'appellent, dans In the Heights, j'avais pas compris que deux personnages féminins étaient en couple, hein, alors on peut plus rien faire pour moi hein, sur ce point-là.
Ah ouais, non, mais dans In The Heights, pour le coup, c'était du foutage de gueule. C'était un tout petit détail, là, ça fait quand même vraiment partie de l'histoire. Mais ceci dit, c'est un aspect qui était encore plus développé sur scène, apparemment. Notamment la chanson I'm Here, elle arrivait à un moment de conflit dans le couple, donc Sally Shug, puisque cette dernière s'en allait, parce qu'elle voulait vivre une histoire avec un jeune homme. Et donc, la chanson I'm Here, c'était une manière pour Sally de s'affirmer malgré le malheur, avec une connotation de dépit amoureux. Donc ça a développé encore plus leur histoire. Et cet aspect-là a été supprimé dans le film, où cette chanson arrive plutôt à un moment de bonheur, où elle est fière d'elle et de ses accomplissements, et donc il n'y a pas cette double lecture un peu plus triste. Sur cet aspect, je vous conseille de lire l'article du LA Times, The 40-Year Fight Over the Color Purple's Queer Love Story, donc la bataille de 40 ans sur l'histoire d'amour queer de la couleur pourpre, très intéressant. Et aussi un article plus critique qui dit que cette dernière adaptation ne rend pas encore justice à l'histoire d'amour puissante de Sealy. Donc, encore une fois, à retrouver sur notre site. Voilà, cette question de la représentation de l'histoire lesbienne dans la couleur pourpre n'est pas encore réglée, c'est pas encore parfait, mais peut-être qu'on aura une nouvelle version dans 25-30 ans, qui sera encore meilleur sur cet aspect-là.
Alors, vous l'aurez compris, hein, pour bien parachever ce podcast, il y a pas mal de lectures complémentaires à faire
Tout
en
à
plus
fait.
de tout ce qu'on a déjà raconté. Donc, interro oral au prochain Ciné-Club sur toutes les lectures complémentaires. Et donc, on va passer à présent à l'autre comédie musicale dont vous voulez parler dans cet épisode, à savoir Mean Girls. Donc Mean Girls, c'est là encore d'abord un livre paru en 2002 intitulé Queen Bees and Wannabes et écrit par Rosalind Wiseman.
Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est pas un roman. C'est un essai ou un livre de conseils ou un livre de développement personnel, je sais pas exactement, qui est adressé aux parents d'adolescentes, qui leur explique un petit peu comment ça se passe, la vie au lycée, et qui parle notamment des différents clans dans les lycées. Donc c'est presque un livre ethnographique sur c'est quoi une adolescente et comment ça se comporte. Donc je trouve ça rigolo d'avoir eu l'idée d'adapter ce concept-là en film de fiction.
J'avoue, moi j'étais persuadée que c'était un roman pour adolescente.
Eh ben ouais, ben tu vois, je suis allée vérifier et ça m'a surpris aussi, ouais.
Et donc, Mean Girls, c'est d'abord un film de 2004, une comédie teen movie réalisée par Mack Waters et écrite par Tina Fey. Donc, Tina Fey, une humoriste et actrice bien connue qui apparaît notamment dans Saturday Night Live et 30 Rock.
Alors, l'histoire de Mean Girls. Après avoir vécu toute son enfance en Afrique, Cady Heron, donc l'héroïne, emménage aux États-Unis avec sa famille. Elle intègre donc un nouveau lycée et elle crée d'abord une amitié avec deux élèves un peu marginaux, Janice et Damien. Mais elle rencontre ensuite les Plastics, un groupe de trois filles populaires mené par la redoutable Regina George. Donc les Plastics intègrent Kaidi à leur groupe. Cette dernière est au départ réticente, mais en fait Janice et Damien l'encouragent à accepter pour pouvoir découvrir les secrets de Regina et se venger, parce qu'ils sont un peu ennemis. Dans le même temps, Kaidi, en plus de tout ça, tombe amoureuse d'Aaron, qui est l'ex de Regina. Et au fil des semaines, en fait, elle va, à force de faire semblant d'être une Plastics, elle va en devenir véritablement une, et commencer à se comporter de manière futile et exécrable, loin de son caractère originel.
Alors le rôle de Caddy est tenu par Lindsay Lohan, qui est alors une ancienne enfant star, aussi connue comme chanteuse, et c'est le film qui va la confirmer comme star, et surtout auprès des plus jeunes, hein, auprès des ados. Rachel McAdams est géniale dans le rôle de Regina George. Amanda Seyfried, toute jeune, joue le rôle d'une des Plastics, dont j'ai oublié le nom. C'est pas Gretchen, c'est l'autre. Donc je ne
Oui,
sais
c'est
plus son
l'autre.
prénom. Et on retrouve Tina Fey dans le rôle de la prof de maths et aussi Amy Poehler dans le rôle de la mère de Regina.
Ouais, donc un super super casting pour ce film. Alors, anecdote perso, je l'ai vu en Angleterre pendant l'été 2004. En fait, j'étais en séjour linguistique de 2 semaines dans une famille dans la ville de Portsmouth. Et j'étais allée voir le film avec les deux filles aînées de la famille qui, dans mon souvenir, avaient en gros 14 et 12 ans. Et elles avaient adoré. Et je me souviens juste après la séance, elles étaient déjà à fond à se souvenir des répliques, voire même, il me semble qu'elles étaient déjà super enthousiastes avant de voir le film. Donc j'ai l'impression que le film était attendu en réalité et que c'était déjà un phénomène à sa sortie.
Il est sorti début 2005 en France sous le titre Lolita malgré moi. Perso, je suis assez certaine de ne pas l'avoir vu à sa sortie et j'avoue que je ne sais pas vraiment si je l'avais vu avant de voir la version comédie musicale. Je
Ok.
crois que je l'avais déjà vu mais je m'en souvenais pas très bien. Mais bon, là, du coup, j'ai vu les deux dans la foulée.
Alors c'est un film qui est devenu culte hein, depuis, il y a des répliques et des scènes qui sont très connues, certaines sont à l'origine de mèmes sur Internet. Donc voilà, c'est un film qui a marqué les esprits, qui d'ailleurs va ressortir en salle en fin d'année, là en octobre 2024, pour fêter ses 20 ans. C'est un très bon teen movie, hein, je trouve, même si je l'ai pas revu depuis un moment, mais c'est quand même un film que j'ai vu plusieurs fois, parce que je trouve vraiment, vraiment chouette. Dans la lignée des classiques, on va dire, des teen movies écrits plutôt pour les filles, hein, on peut penser à Heathers, Clueless, 10 Things I Hate About You, 10 bonnes raisons de te larguer en français. Ou encore Bring It On, le super film que j'adorais sur les cheerleaders, qui s'appelle American Girls, je crois, en français. Et d'ailleurs, deux de ces teen movies étaient devenus des comédies musicales au début des années 2010, donc on imagine que ça peut être aussi une inspiration pour le fait d'avoir créé la comédie musicale Mean Girls. C'est Bring It On et Heathers. Dans le genre adaptation de film, on peut aussi penser à Legally Blonde, La Revanche d'une Blonde, même si c'est pas un film qui se passe dans un lycée, c'est quand même un film plutôt adressé à un public jeune et féminin, datant de 2001 et qui avait été adapté en comédie musicale en 2007.
Oui, de toute façon, on retrouve aussi la tendance hein, qu'on avait déjà évoquée d'aller puiser dans les films devenus cultes pour faire des comédies musicales récentes, hein, de Retour vers le futur.
Tout à fait, ouais.
Et donc, Mean Girls devient une comédie musicale en 2018, un projet qui apparemment, selon Tina Fey, était en développement depuis 2013 et qui donc se joue pour la première fois à Broadway. En 2018, le livret et de Tina Fey elle-même, et la musique est composée par Jeff Richmond, qui se trouve être son mari, et avec des paroles de Neil Benjamin. Le spectacle est un gros succès, il est nommé pour 12 Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale, mais finalement il ne recevra aucune récompense.
Alors parmi les interprètes notables du cast originel de Broadway, on peut noter Taylor Lautermann qui joue Regina et qui avait joué auparavant sur Broadway justement dans Bring It On, et Barrett Wilbur Tweed dans le rôle de Janice qui avait joué notamment Veronica dans Heathers off-Broadway, donc des interprètes qui étaient déjà spécialistes des adaptations musicales de teen movie. À noter que comme dans The Color Purple, c'est le premier point commun qu'on peut trouver je pense, l'homosexualité devient plus explicite par rapport au premier film, et notamment dans ce film de 2024, Janice, donc le personnage de l'ami qui forme un duo avec Damien, est explicitement lesbienne, alors que c'était simplement un soupçon, entre guillemets, qui pesait sur elle dans le film original. D'ailleurs, dans le film original, elle finissait avec un gars, je crois, même à l'époque ça m'avait surprise.
Oui, je te confirme, je viens de revoir le film, donc, et elle finit en effet avec un gars, et ça vient un peu de nulle part, hein. Je sais pas, moi aussi j'avais cru comprendre quand même qu'elle était lesbienne dans le film, pour une fois je l'avais compris, mais et pourtant elle finit avec un gars. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues de la comédie musicale, enfin du film musical, qui sont mot pour mot ceux du film originel. J'ai fait un peu l'exercice de comparaison comme j'ai vu les deux dans la foulée. Et on a même des numéros qui émanent directement des situations du film. Hein. Par exemple, on compare les élèves en fait, à des animaux. Ben, ça devient un numéro un petit peu plus tard dans la comédie musicale filmique. Ben justement, on va parler de ce film musical. Donc, le scénario du film est de Tina Fey et le film est réalisé par Samantha Jane et Arturo Pérez Jr., dont c'est le premier long métrage.
Alors la promo du film, là encore, point commun avec Color Purple, a cette formule étrange, A New Twist by Tina Fey. Donc c'est toujours la même chose, pas de mention du fait que c'est musical. Et d'ailleurs, j'ai entendu plusieurs témoignages où les spectateurs, spectatrices pas au courant que c'est une comédie musicale se mettent à soupirer à l'arrivée des numéros musicaux.
Oui, cette histoire de new twist ou de new take,
Ouais.
c'est vraiment hyper casse-gueule, enfin. C'est un peu en mode disclaimer, on vous avait dit qu'il y avait quelque chose de nouveau, donc voilà, on l'a dit,
On n'avait pas
mais...
précisé quoi.
Et vraiment, quand j'ai bah, du coup vu les deux films dans la foulée, et notamment quand j'ai vu le... Enfin, j'ai l'impression que le deuxième, comme il ressemble quand même beaucoup au premier, je trouve, on a juste cet ajout des numéros qui sont en plus. Donc c'est ça le new twist. Donc j'imagine bien que n'importe qui n'est pas le prévenu est forcément déçu. Enfin, je comprends pas franchement cette stratégie. C'est lose-lose assuré, quoi. Bah.
Ouais, mais il paraît que finalement ça marche pas si mal. Typiquement pour Wonka, le fait de pas avoir trop dit que c'est une comédie musicale,
Ouais.
des gens qui seraient pas allés, ils sont allés et on dit ah finalement c'est bien. Donc je sais pas. Moi ça me consterne un peu hein, le fait que on doive cacher que les films sont des comédies musicales, qu'on fasse des bandes-annonces sans chansons. Enfin, je trouve ça un peu consternant, mais si ça marche, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Ouais. Bon, je pense qu'en temps voulu, on pourra copieusement s'exprimer sur la promo et les réactions de spectateurs, surtout, j'insiste, hein, par rapport à la promo de Joker, si tu vois où je veux en venir.
Ouais.
Et ces histoires de non, non, c'est pas une comédie musicale, et les gars sur Internet, oh, ben heureusement que c'est pas une comédie musicale. Enfin bref,
Ouais.
je pense que c'est un bon sujet, mais je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire à ce moment-là.
Oui, pour préciser, ceux qui savent pas de quoi on parle, c'est que Joker, la suite de Joker, donc Joker 2, Folie à deux, je crois, le titre, est censé être un film musical. En plus, il y a Lady Gaga dans le rôle féminin. Mais finalement, on nous dit que finalement, c'est pas vraiment une comédie musicale, c'est un film où les chansons expriment l'intériorité des personnages. Oui, d'accord. Bref, on en parlera effectivement en temps voulu. Revenons à Mean Girls 2024. Donc, dans le rôle de Katie, on a Angourie Rice, une jeune actrice australienne, aperçue dans les dernières occurrences de Spider-Man, là, avec Tom Holland, ou encore dans la série Mare of Easttown avec Kate Winslet. On a Renee Rapp en Regina. Elle avait joué le rôle à Broadway en 2019-2020 et c'est aussi une chanteuse assez connue aux États-Unis. Elle a sorti un album récemment qui marche très bien. Dans le rôle de Janice, on a Holly Cravallo, une super interprète également, qui s'est fait connaître pour être la voix de Moana, donc dans le film de Disney il y a quelques années, et qu'on a vu dans d'autres petits rôles ces dernières années, notamment dans la série musicale Rise. Dans le rôle de son acolyte Damien, on a Jekyll Spivey, qui est très très marrant, j'aime beaucoup, et qui est connu, lui, pour avoir tenu le rôle principal de la comédie musicale A Strange Loop à Broadway, qui est une comédie musicale
Ah,
que,
je savais pas.
pour l'instant, je connais pas bien, mais que j'ai très très envie de découvrir. Et enfin, Christopher Briney interprète Aaron, donc le love interest de l'héroïne, enfin de deux des personnages même. J'ai lu que ça m'a fait rire, qu'il a accepté le rôle uniquement quand on lui a assuré que les passages chantés de son personnage ne seraient pas dans le film.
Bien joué. Alors, on a Tina Fey et Tim Meadows qui reprennent leurs rôles respectifs du film de 2004, donc la prof de maths et le principal du lycée. J'ai trouvé assez remarquable combien ils n'avaient pas tellement vieilli. Hein.
C'est
Franchement,
vrai.
en 20 ans, ils s'en tirent bien. Lindsay Lohan elle-même fait un caméo en tant que modératrice de la compétition de maths, là, en fin de film. Et on a aussi Ashley Park, qui jouait le rôle de Gretchen sur scène, qui joue ici le rôle de Madame Park, qui est prof de français. Et je me suis demandé si c'était suite à sa présence dans la série à succès Emily in Paris qu'elle se trouvait être prof de français, mais en tout cas, elle m'a fait bien rigoler.
Oui, c'est vrai, c'est drôle. C'est possible, effectivement. Et enfin, je voulais mentionner Busy Phillips, qui est une actrice que j'aime beaucoup depuis ses tout débuts dans la série que j'adore de mon cœur, Freaks and Geeks, qui joue la mère de Regina.
Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien parce qu'elle ressemble vachement à Renée Rapp.
Ouais, complètement, elles ont un style très proche, ouais, c'est marrant. La qualité principale du film, je trouve, c'est quand même l'interprétation, notamment Renée Rapp, qui est ultra, je trouve, charismatique, et aussi Holly Carvalho, très très attachante. J'ai trouvé que le film était plaisant, très agréable à voir, avec un rythme très dynamique, parfois presque trop, hein. L'enchaînement des séquences et des numéros musicaux, m'a semblé à certains moments un peu précipité.
Oui, j'avoue que j'ai aussi trouvé que ça n'arrêtait pas au point d'être parfois un peu fatigant. Mais là encore, je pense que c'est quelque chose qui m'aurait peut-être beaucoup moins dérangé si je l'avais vu en salle. Là, pour le coup, je pense être moins indulgente quand je vois quelque chose sur l'écran de mon ordinateur.
Je me suis demandé, mais bon, j'ai pas revu depuis longtemps le Mean Girls de 2004, donc peut-être que je le surestime, mais Si cette dernière version était pas peut-être un peu moins drôle que l'original, avec un côté musical qui paradoxalement le rendrait un petit peu moins léger. Mais ceci dit, les numéros musicaux sont assez ambitieux, j'ai trouvé certains très réussis et dans l'ensemble la musique est vraiment chouette.
Ouais, ça me donne vraiment envie de la réécouter et d'en savoir un peu plus sur la production scénique, hein, tout simplement.
J'ai particulièrement aimé la chanson Revenge Party, je crois que toi aussi, Fanny.
Ouais, c'est comme son nom l'indique, hein, cette chanson dans laquelle Janice et Damien expliquent à Caddy comment elle va se venger de Regina, qui vient alors en fait de se remettre avec son ex parce qu'elle sait que Caddy était intéressée par lui. Et à ce moment-là, en fait, ils s'imaginent dans les couloirs du lycée, qui sont alors tout repeints en rose arc-en-ciel, avec des paillettes, des confettis partout. Et en fait, le comique vient du contraste entre la violence des sentiments qu'ils ont à l'égard de Regina et l'espèce d'exultation enfantine que leur plan leur procure. Et j'aime en particulier, en fait, la seconde partie de cette chanson, où on a en fait des chœurs qui commencent à répéter « She has everything », que Regina, elle a tout. Et en fait, à ce moment-là, la chanson intègre des scènes de la diégèse sous forme de montage elliptique. On les voit, en fait, en quelque sorte, mettre leur plan à exécution. Hein. C'est comme voilà, une ellipse et donc un fast-forward dans la narration. Et on voit aussi combien, à chaque fois qu'ils tentent un truc, bah, Regina s'en tire puisqu'elle retourne la situation à son avantage, un peu du fait du charisme inné qu'elle a. Par exemple, à un moment donné, elle est éclaboussée et son maquillage des yeux coule de façon désastreuse. Et en fait, ça devient une mode que tout le lycée suit, et même la prof de français qui s'étale son maquillage pendant le cours. Ça m'a fait tellement rire ce
Oui, c'est
moment-là.
très
Enfin,
drôle.
moi, j'aime beaucoup Ashley Park. Bah voilà, je trouvais que cette scène était bien réussie parce que pour le coup, elle était très adaptée au médium cinéma avec cet usage du montage et de l'ellipse. Mais en fait, j'ai regardé quelques productions, pour le coup, pas la production de Broadway, mais une production amateur, et j'ai constaté que bah, l'ellipse, elle était déjà en fait dans la version scénique. Mais bon, je trouve que c'est toujours plus facile de montrer une ellipse au cinéma que sur scène. Une autre chanson qui m'a marquée, notamment parce que en fait, c'est une des rares chansons que je connaissais de cette comédie musicale. C'est la chanson Apex Predator qui est un peu la chanson de présentation de Regina par Janice. Et c'est une chanson qui file l'analogie avec la jungle et la nature sauvage d'une part et d'autre part bah, le territoire sauvage si je puis dire du lycée. On voit tous les élèves se comporter comme des animaux tout au long de la chanson avec une caméra qui se balade dans les couloirs puis à l'extérieur du lycée. Je trouvais que l'idée était pas mal mais que le rendu était finalement un peu ridicule. Je sais pas ce que ça peut donner sur scène mais ça m'a pas totalement convaincue. Enfin, je trouvais que ça tirait trop en longueur, tu vois, de les voir agir comme des animaux. Et une autre chanson qui m'a marquée, c'est la chanson Someone Gets Hurt, qui est chantée par Regina pendant la soirée de Halloween, ou donc à l'occasion de laquelle elle se remet avec son ex. Elle m'a bien plu sur le moment, même si en la revoyant, là, je me suis dit qu'elle était quand même moins inventive en termes de mise en scène que les autres. On retrouve d'ailleurs dans cette scène le motif du freeze, très à la mode en ce moment sur les comédies musicales qu'on a vues sur scène. Enfin, tu sais, on a vu ça dans Titanic et aussi dans laquelle autre qu'on a vu récemment, je sais plus. Mais voilà, je me suis dit que c'était quelque chose qui revenait assez souvent, où on a les interprètes de l'ensemble qui se fichent quand le personnage principal chante sa chanson.
Oui, c'est comme un arrêt,
Arrêt sur image, tout simplement.
comme si le temps s'arrêtait. Ouais. Autre solo de Regina qui est notable, c'est World Burn qui fait partie des chansons assez connues du show. Ce moment très nihiliste où Regina dit qu'elle va tout faire péter parce que c'est à son tour de se venger. Donc ça se déroule dans les couloirs du lycée pour mettre en fait en valeur la puissance vocale et le charisme de René Rapp, où on est vraiment sur elle et avec sa rage qu'elle a. Et ça m'avait paru assez efficace comme manière de mettre en scène ce numéro. Et une autre chanson marquante, qui est aussi une chanson d'affirmation puissante d'un personnage féminin, c'est I'd Rather Be Me, qui est, en gros, c'est celle que j'ai le plus écoutée du cast recording. À un moment, je me souviens plus si je l'ai chantée en cours de chant, je crois pas, mais j'avais le projet 2. Donc le solo de Janice, qui est, à mon avis, c'est le 11 o'clock number, donc ce grand moment de chant, donc qui pour le coup est dévolu à un personnage secondaire, donc ce qui est assez original, et qui est impressionnant par sa puissance d'affirmation, hein, puisque Janice va voilà, revendiquer son identité et dénoncer la violence qu'elle subit. Vocalement, c'est une chanson très difficile avec un belt ultra puissant. Et dans le film, c'est un plan séquence qui va suivre Janice dans tout le lycée, dans le gymnase, le réfectoire, les couloirs, la salle de musique, etc. Avec une très bonne interprétation, très punchy, d'Oli Cravallo. Donc très fort, et j'ai trouvé dommage que, en fait, comme très souvent, comme dans I'm Here de The Color Purple, on a une finale beltée très fort, etc. Bon, et là, c'est Be With save you, hyper fort. Et dans le film, ils ont fait le choix que cette note finale, sur le you là, soit interrompue par. En gros, il y a un gros rebondissement à ce moment-là, il y a un accident, bon, je précise pas de quoi il s'agit, et ça coupe complètement Janice dans son élan. Et alors, le côté choc marche en un sens, tu fais haha, enfin, c'est un peu rigolo, un peu surprenant. Mais c'est dommage de ne pas avoir assumé la fin du numéro pour vraiment rendre justice au personnage. Et d'après ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression que ça soit comme ça sur scène. La chanson se termine vraiment dans cette affirmation puissante par la voix belte, quoi.
En termes d'adaptation et donc de différence entre la version scénique et son adaptation cinématographique, il y a un certain nombre de choses qui ont changé, malgré tout, même si je disais que le film est proche finalement du film de 2004.
Oui, en fait, ce qui a changé, c'est surtout par rapport à la comédie musicale de 2018. Comme dans The Color Purple, en fait, hein, très souvent, on l'a déjà dit ça, hein, mais quand une comédie musicale scénique est adaptée au cinéma, un certain nombre de numéros musicaux sont coupés. Là, il y en a pas mal, hein, qui ont été supprimés. Ça a déçu certains fans. Pourtant, j'avoue qu'au visionnage, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de numéros, enfin, que ça manquait pas de moments musicaux, donc ça m'a pas choqué. Mais ceci dit, comme je connaissais un petit peu la bande son de la version scénique, j'ai trouvé dommage d'avoir coupé certains morceaux très chouettes comme Where Do You Belong, là celui-là il m'a vraiment manqué. C'est un solo de Damien, en plus ça aurait donné l'occasion à Jekyll Spivey de chanter encore plus parce qu'il est super. C'est hyper catchy où il présente en fait les différents clics du lycée. Ou encore un autre numéro que j'aime bien, c'est It Rose, qui est un solo de KD. C'est un petit peu sa chanson de présentation au début. En revanche, il y a une chanson qui a été rajoutée, bah, du coup peut-être pour pallier au fait d'avoir supprimé It Rose. Un solo de KD au début qui s'appelle What If, donc qui est typiquement dans la tradition de la I Want Song, de l'héroïne au début qui se demande de quoi demain sera fait, etc. Elle est un petit peu banale et en fait elle permet de faire la transition parce que le tout début du film se passe en Afrique. KD apprend qu'elle va devoir déménager aux États-Unis et c'est pendant cette chanson What If que se fait le passage du continent africain aux États-Unis. Donc voilà, un truc typique de chanson itinérante qui est facilité par le médium cinéma, mais qui est pas très très passionnant, j'ai trouvé.
Ouais, j'avoue que celle-là, je l'ai trouvée même limite ridicule. Enfin, le décor était un peu bizarre. Il faisait hyper artificiel. Enfin, il faisait hyper. Ouais, fake, quoi. Généré par intelligence artificielle, presque. Je trouve que c'était pas nécessaire. Hein. C'est un peu dommage parce que ça m'a donné un petit a priori négatif sur le film en commençant, tu vois, comme ça commence sur ça. Mais bon, après, il y a plein de numéros qui sont super, mais j'étais un peu dubitatif d'emblée avec ça.
Eh bien, voilà tout ce qu'on a pu vous dire sur ces deux films sortis récemment, ces deux films qui nous montrent un peu l'étendue de ce qu'on peut faire en comédie musicale, des sujets qu'on peut traiter, très variés, des types de musique qu'on peut utiliser. Donc, je sais pas si vous les avez vus, parce qu'en fait, finalement, en France, ils sont passés très vite à la trappe, hein. C'est extrêmement dommage, mais dites-nous ça déjà si vous avez pu les voir, si vous avez eu le temps, et puis si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous êtes d'accord ou pas avec nos analyses.
Eh bien, merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous mettre toutes les étoiles du firmament sur toutes les
Tout
différentes
à fait.
plateformes sur lesquelles vous allez nous écouter. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz.
Salut tout le monde!